Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Mauvaise nouvelle pour les tuches. La récolte de pommes de terre s'annonce mauvaise en France, au point de menacer la filière et notamment les fabricants de frites. Jeff Tuche est déjà prêt à déclencher le plan hors sec.
2 heures que j'attends. Ça répond toujours pas. Moi, je peux vous dire, il va m'entendre, président.
Laisse tomber, Jeff.
Non, non, je ne serai pas tombé.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va se demander si les patates ne vont pas manquer, et avec elles les frites et puis les chips.
Un petit coup de gueule contre les abrutis qui m'ont encore volé des pommes de terre. Juste pour leur dire, c'est de la fécule, ça bouche le trou du...
C'est comme si j'allais chez vous, je passe la clôture... Je vais prendre des pommes de terre dans le jardin ou autre chose. Et voilà, je vous ai pas demandé.
Le coup de gueule sur les réseaux sociaux et sur France 3 d'un agriculteur de l'Aisne qui s'est fait dérober 500 kilos de pommes de terre. C'était en 2019. Et il y a fort à parier que cette incivilité, pour ne pas dire plus, se reproduise dans les prochaines semaines. Car la pomme de terre pourrait se faire plus rare. La récolte s'annonce mauvaise selon les dires de l'Union nationale des producteurs de pommes de terre. La nouvelle a ému une partie de la presse dès la fin août. Avant de faire des réserves pour l'hiver, j'ai eu envie de creuser, ce qu'il faut d'ailleurs faire pour récolter ce féculent. Je suis donc allé voir Marie-Josée Cougard pour parler de la raréfaction de la patate. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste de l'agriculture aux Échos. Comment se présente la récolte de pommes de terre cette année ?
Eh ben, pas très bien. Il paraît que c'est la pire récolte en 20 ans. Les chiffres concernant les rendements sont assez effrayants. Les professionnels, les spécialistes du secteur parlent de moins 20 à moins 50% dans le pire des cas. La situation n'est pas la même partout, évidemment, on en reparle.
Les producteurs évaluent les pertes à 1,5 million de tonnes, sachant que la France en a produit 8 millions l'an dernier. Pourquoi cette récolte s'annonce-t-elle aussi mauvaise ?
C'est un cumul. Il n'a échappé à personne aujourd'hui, je crois, en France, qu'on a eu très très chaud. On a manqué d'eau énormément. Et donc, le cumul sécheresse-canicule est un très mauvais cocktail pour la pomme de terre. La pomme de terre résiste un peu mieux à la sécheresse qu'à la canicule, mais la canicule, elle n'aime pas du tout.
Pour quelle raison ?
Alors, pour la sécheresse, on comprend bien que d'une manière générale, les légumes ont besoin d'eau pour assurer leur croissance. Et la canicule, la pomme de terre n'est pas un légume qui pousse dans les zones à très forte température. Et les tubercules ne se développent pas bien quand il fait très chaud.
C'est-à-dire que les patates sont plus petites.
Les pommes de terre sont plus petites. Ouais. Et plus difficiles à récolter, parce que la terre est sèche. Très compliqué d'arracher les tubercules quand la terre est dure et sèche.
Et pour qui a déjà tâté de la bêche dans le jardin de son grand-père, hein, comme moi, je peux vous dire qu'effectivement, quand la terre est sèche, c'est beaucoup plus difficile.
Et la terre est encore plus basse quand elle est sèche.
Lundi, des patates, des patates, des patates. Mardi, des patates, des patates, des patates. Mercredi, des patates, des patates, des patates. Jeudi, des patates, des patates, des patates. Vendredi, des patates, des patates, des patates. Samedi, des patates, des patates, des patates, des patates, des patates, des patates, des patates.
Les rendements sont en forte baisse, hein, vous le disiez, moins 20, moins 50% dans certains cas. Quel impact ça peut avoir sur les prix, sachant que la patate, ça reste quand même un produit de première nécessité pour beaucoup de consommateurs?
Oui, c'est vrai que c'est un produit de base pour les familles. Quiconque a élevé des enfants sait que quand ils sont adolescents, il faut remplir les estomacs, et donc la pomme de terre, ça convient très très bien dans ces cas-là. Alors, j'ai un peu enquêté auprès des différentes organisations professionnelles de la pomme de terre. Elles me disent qu'il n'y aura pas de répercussions importantes, significatives sur les prix. Et donc, j'ai eu de la part de l'interprofession de la pomme de terre un prix qui dit en 2021, on était à 1,41 le kilo qui est vendu dans des sacs de 2,5 kg. Cette année, on sera à 1,49. De 1,41 à 1,49, ça ne fait pas beaucoup de différence.
Ouais, c'est pas une inflation qui va mettre à mal le budget des ménages. Après, c'est vrai qu'il y a différentes catégories de pommes de terre. Certaines sont beaucoup plus chères que d'autres, notamment parce que la production est une production plus de niche et les qualités gustatives sont sans doute également plus importantes. Cette crise, elle intervient surtout peu de temps après celle du Covid, qui avait eu aussi un impact négatif sur les comptes des producteurs.
Oui, juste, je vais revenir un petit peu en arrière sur la question du prix, parce qu'il y a quand même une explication importante à donner. Quand on a une petite production, en général, ça a un impact sur le prix. Ça, c'est d'une logique imperturbable. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que la pomme de terre qui est vendue dans les rayons à l'état de pomme de terre fraîche, c'est une pomme de terre qui est à 80% irriguée. Donc, elle n'a pas souffert de la sécheresse au même titre que les autres. Et donc, les chutes de rendement, moins 20, moins 50, c'est sur la totalité de la production. Mais seulement la moitié de cette production est vendue comme pomme de terre fraîche. Ce qui explique qu'on n'aura pas forcément de répercussions si importantes sur les prix, puisque les rendements de ces pommes de terre irriguées ne vont pas énormément chuter.
La crise du Covid, pouvez-vous revenir à cette question? Elle avait eu un impact là aussi très négatif?
Oui, elle avait eu un impact très négatif, pour évidemment complètement d'autres raisons. Les restaurants avaient fermé, les cantines avaient fermé. Et les cantines et les restaurants sont des très bons clients pour les frites. Donc les producteurs de pommes de terre s'étaient retrouvés avec 450 000 tonnes de pommes de terre sur les bras pour une production qui est de 6 millions de tonnes. 450 000, ça pèse pas mal. Donc voilà, ils ne savaient pas quoi en faire, il n'y avait pas de débouché immédiat, et quand on se retrouve avec des volumes comme ça, tout à coup, pour lesquels on n'a pas prévu d'autres débouchés, ça provoque une vraie crise. Donc ils ont trouvé des palliatifs, mais ils avaient perdu pas mal d'argent, il était question de 200 millions d'euros de pertes à l'époque.
Ouais, parce que c'est un produit périssable, la pomme de terre. Hein.
Oui, on ne peut pas la conserver, et là, ce qui était terrible, c'est qu'en fait, on leur demandait d'écouler la pomme de terre, d'une manière ou d'une autre, mais comme les débouchés traditionnels n'avaient pas besoin de plus de pommes de terre, c'était aux producteurs de financer le transport de leurs produits dont personne ne voulait. Donc non seulement les débouchés qui voulaient bien les absorber les prenaient gratuitement, mais en plus le transport leur revenait. C'était aux producteurs à financer le transport.
200 millions de pertes estimées en 2020 pour un secteur qui pèse environ 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 2022 s'annonce donc aussi difficile pour une partie de la filière. Marie-Josée, vous rassurez le consommateur, le prix de la patate ne va pas s'envoler. Mais je voudrais qu'on réponde aussi à cette inquiétude qu'on a parfois pu entendre. Compte tenu de la chute des rendements, va-t-on manquer de patates cet hiver?
A priori, non, puisque, comme je le disais, les pommes de terre de consommation sont pour 80% irriguées. Donc, elles seront probablement un peu plus petites. Peut-être, selon la provenance, mais il ne devrait pas y avoir de pénurie et pas d'impact sur les prix.
Pas la peine d'aller se précipiter, d'acheter 200 kilos de patates pour tenir l'hiver.
Alors ça, on ne risque pas, parce que comme ça ne se conserve pas, donc le consommateur ne fera pas comme d'habitude, il ne va pas vider les rayons et créer la pénurie ou aggraver la pénurie, ce qu'il fait assez fréquemment.
Il y a une chose importante à signaler, Marie-Josée, on a l'habitude de voir, vous le disiez, la pomme de terre dans les magasins, celle qui vient donc de l'irrigation, elle est plus ou moins ovale, plus ou moins cabossée dans les cuisines, mais elle a beaucoup d'autres utilisations.
Oui, la pomme de terre est un légume assez incroyable et elle a des possibilités de valorisation bien plus grandes que celles que la consommation de pommes de terre fraîches lui offre. Elle a des clients multiples dans l'industrie. La pomme de terre, ça contient de l'amidon et l'amidon, c'est sucré. Et ça permet de sucrer des boissons, des glaces, des sauces. Ça sert aussi d'épaississant. Donc, ça entre aussi dans les plats préparés. Ça sert à la confiserie. Ça sert à la pharmacie. On fait des enveloppes de médicaments à base d'amidon. Ça fait du carton, du papier. C'est multiple.
On parle des patates, mais il y a d'autres produits agricoles qui pourraient se faire plus rares sur les étals des marchés ou des supermarchés.
Oui, la sécheresse a évidemment eu un impact global sur tout ce qui pousse dans la terre. Donc, les fruits et légumes sont à peu près aussi dans la même situation. Donc là, il y a une très grande diversité de produits. Ils sont récoltés à des moments différents, donc ils ont aussi souffert plus ou moins. Mais des fédérations de professionnelles disent que le rendement, enfin la production, chuterait de 25 à 35% en gros pour les fruits et légumes. Mais il y a certains fruits ou légumes qui se sont mieux portés, cette année.
Lesquelles, par exemple ?
Par exemple, la pomme. La pomme est plutôt en bonne forme. La pêche, l'abricot. Mais il y a aussi un effet de base. L'année dernière, pour l'abricot, était catastrophique. Donc l'abricot se porte mieux cette année et la pêche aussi.
On pourrait en revanche manquer parfois de tomates et de salades cet hiver, en raison non pas de la sécheresse, mais des prix de l'énergie. Aux Pays-Bas ou en Angleterre, certains agriculteurs pourraient renoncer temporairement à la culture sous serre, étant donné les risques de voir la facture de chauffage flamber. Marie-Josée, on en arrive à cette question qui inquiète dans le Nord, mais pas seulement. Faut-il s'attendre aussi à une répercussion sur la production et la disponibilité de frites dans les restaurants et les friteries, après une première alerte au début de cette année liée au manque d'huile ?
C'est une vraie question. Alors, je vais faire un beau néologisme, parce que la question, enfin, en tout cas la réponse à cette question, tourne autour de la fritabilité de la pomme de terre. Pour faire des frites, il faut des grosses pommes de terre. Et cette année, justement, les pommes de terre risquent de n'être pas très grosses. Donc, est-ce qu'on aura moins de frites ? Bon, on retombe sur la question de l'irrigation. Les pommes de terre destinées à la consommation fraîche sont irriguées, les autres ne le sont pas. Donc, il pourrait y avoir un impact plus important sur la frite que sur la pomme de terre fraîche. Mais il faut savoir aussi qu'en France, une frite sur deux est importée. Et il faut se tourner vers nos camarades belges et néerlandais pour savoir s'ils ont autant souffert de la sécheresse que nous. Et la réponse est a priori pas mal aussi.
C'est vrai, on importe massivement des patates pour fabriquer des frites et des chips en France ?
Oui, j'hésite à dire que c'est une des caractéristiques de l'agriculture française parce que ça serait peu flatteur. Mais assez souvent, la France est très forte au premier niveau de production et elle saute ou elle rate ou elle fait moins bien au niveau de la transformation. Et là, la France doit être premier exportateur mondial de pommes de terre, mais elle importe une frite sur deux, parce qu'elle vend ses pommes de terre à la Belgique et aux Pays-Bas, qui nous revendent leurs frites.
Plus cher, forcément.
Plus cher, ça veut dire que la valorisation de la pomme de terre sous forme de frites échappe à la France.
Est-ce que ça peut être la même problématique pour la filière chips ?
En termes de pénurie ?
Oui, en termes de pénurie, là aussi.
Oui, parce que c'est une question de matière première, toujours. J'ai refait le point ce matin avec les industriels pour savoir si les pluies de ces derniers jours avaient pu un petit peu changer la donne. La récolte est en cours, enfin les dernières récoltes sont en cours. On y verra plus clair début octobre. Là, pour l'instant, c'est un peu difficile de dire vraiment où on en est.
En 2021, la France a produit environ 8 millions de tonnes de pommes de terre, un secteur qui a dégagé un excédent commercial de plus de 500 millions d'euros. La France, réputée pour ses pommes de terre à chair ferme, est donc le premier exportateur au monde de patates. Mais elle produit peu de chips et de frites. Le 7 décembre dernier, François Bayrou, haut commissaire au plan, soulignait ce paradoxe. La France importe 5 fois plus de chips qu'elle n'en exporte, soulignait l'ancien ministre. En 2021, cela a coûté 120 millions d'euros de déficit commercial à tomber dans les pommes de terre.
Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça.
Ça ne signifie pas pour autant qu'on ne fabrique pas de chips en France, à l'image de Vico, présent depuis des décennies à Vic-sur-Aisne, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 3 Hauts-de-France.
Cette remorque contient 22 tonnes de pommes de terre qui bientôt deviendront des chips. Ce sont celles de Jean-Michel.
Alors, nous sommes heureux de travailler pour Vico puisque ça fait, je suis la fin de la deuxième génération. Donc ça fait plus de 60 ans que nous produisons des pommes de terre pour Vico. On a la chance d'avoir un industriel à la porte de son exploitation et on est content de pouvoir livrer un industriel sur notre territoire.
Vico, c'est l'un des leaders français de la chips. Mais pour la story, j'ai eu envie de donner la parole à l'un des nouveaux acteurs de la chips.
La chips, ça porte vraiment bien son nom. On dit les chips normalement, mais là, c'est la chips. Alors ce paquet à 4 euros, il est vraiment fantastique. Des chips comme ça, j'en ai jamais goûté, honnêtement. Elles sont très, très, très craquantes. Elles sont épaisses. Enfin, c'est vraiment un goût... on a beaucoup de personnes qui viennent exprès pour le paquet de chips quand même. Hein.
La chips française recommandée ici par le French Apéro Club. Je les ai appelés, pas à l'heure de l'apéro, mais en pleine séance de production à la ferme de Coquerel en Picardie.
Bonjour Étienne Lemoine.
Bonjour Pierrick.
Vous avez créé avec André Van Lerberg la marque de chips, la Chips Française, en Picardie, une terre de pommes de terre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure ?
Alors ce qui nous a donné envie de nous lancer dans l'aventure, en fait, c'est que moi j'ai un parcours grande distribution. André a plus un parcours agroalimentaire. Et finalement, nos parents étaient agriculteurs, donc on s'est dit qu'on faisait de la production de matières premières et qu'il serait intéressant de nos jours d'aller jusqu'à la transformation et la commercialisation. Et comme vous avez dit, nous sommes un pays de la pomme de terre, et donc c'est arrivé comme une évidence où la chips est apparue en nous pour faire déguster aux gens nos produits finis.
Mais pourquoi la chips, justement ?
Au début, on avait pensé aussi à la frite, mais après, il y avait des problématiques de gestion du froid, d'approvisionnement, de DLC courtes, et que finalement, avec la chips, on arrivait avec une DLC plus longue, et finalement, c'était plus facile pour la vente au départ.
La DLC, la date limite de consommation, on voit qu'il y a une réflexion sur le produit, mais c'est aussi une envie qui est née sur les bancs de l'école.
C'est une idée, effectivement, qui est née sur le banc de l'école, parce qu'on était en colocation tous les deux à Reims, et quand on recevait nos amis à l'apéro, souvent André faisait des chips pour qu'on puisse les déguster ensemble. Et finalement, c'est revenu aussi sur le tapis.
Donc on amène les pommes de terre dans un premier bac, qui ensuite s'est transporté juste derrière moi dans les pierreuses, qui séparent les pierres des pommes de terre. Et derrière, c'est lavé et pelé dans une peleuse. Il y a une opératrice qui est juste derrière et qui fait le tri des pommes de terre. Les pommes de terre abîmées sont mises de côté. Après, elles sont tranchées juste avant le chaudron.
On entend ici votre compère André détailler le parcours de la chips à la pomme de terre dans cette vidéo publiée sur le site Les Échoppes. Ça a été un investissement important ?
Ça a été un investissement, oui, assez conséquent. Faut savoir qu'on a mis toutes nos économies, et c'était un énorme pari. On a été voir beaucoup de banques différentes, 9 banques pour pas les citer, et parce qu'il faut savoir qu'on est au pied de Vico, d'un gros industriel, et du coup les banques étaient frileuses au départ, et maintenant on a réussi le pari et le challenge, donc on est content de notre début d'aventure.
Alors, c'est une chips artisanale, on va en reparler, mais combien est-ce que vous en produisez et comment est-ce que vous les écoulez ?
Alors sur l'année 2021, une année qui est finie, on a fait environ 400 000 paquets, soit environ 60 tonnes de pommes de terre.
Ouais, 400 000 paquets, c'est plus que ce que vous prévoyez, j'ai lu ça dans une interview, vous attendiez à vendre 300 000 paquets cette année. Ça veut dire que ça marche bien ?
Ça veut dire qu'on est content et que la demande est au rendez-vous, et voilà, qu'il faut continuer, que les gens aiment vraiment qu'il y ait une traçabilité du produit de A à Z, et que ce soit les mêmes personnes qui fassent la production, la transformation et la commercialisation. Et ce qui est important aussi derrière, c'est que le goût est au rendez-vous et que c'est une chips un peu plus épaisse, moins salée, et vraiment on sent le goût de la pomme de terre finalement en goûtant notre chips.
Mais justement, j'allais vous demander, comment est-ce qu'on arrive à se différencier, à émerger face aux géants ? Vous parliez de Vico, mais il y a aussi Lay's qui bénéficie d'une puissance commerciale et marketing beaucoup plus forte que vous.
Alors, si vous voulez, ça va être notre méthode de cuisson qui est différente. Nous, on est sur une cuisson artisanale, une cuisson au chaudron. Donc, c'est une cuisson plus lente, plus légère, et finalement qui donne un goût spécifique à la chips, qui lui rend vraiment ses lettres de noblesse en sentant vraiment la pomme de terre, en salant un peu moins, ce qui vient vraiment donner son goût sublime.
La chips française, c'est tout un programme. Vous racontez l'envie de bouter l'anglois hors de France. Vous parlez des chips, bien entendu. Vos patates sont 100% françaises, mais qu'en est-il des produits ajoutés comme le sel, le piment ou l'huile ?
Alors là, on vient vraiment sourcer à chaque fois, parce que c'est important pour nous, c'est d'aller voir des producteurs directement. Donc au niveau du piment, on travaille avec le piment du Berne, donc la maison Malnoux, donc c'est un piment fumé où vraiment ils font la production, la transformation, ce qu'on reçoit ça en poudre, sans additifs, sans rien, avec le produit finalement qui vient du producteur. Au niveau des herbes, on travaille avec la maison Florexir, où là c'est un mélange d'herbes, donc c'est livetch, sauge et ail des ours, où pareil, ils produisent, ils transforment, ils nous les envoient, et c'est direct producteur, donc vraiment zéro additif. et pour rendre vraiment le goût à nos chips si particulier.
La récolte de pommes de terre s'annonce mauvaise cette année, catastrophique même selon les producteurs. Qu'en est-il pour vous ?
Alors la récolte de cette année est vraiment très compliquée parce qu'on voit qu'on a eu un climat qui a été très compliqué où on n'a pas eu d'eau, il n'y a pas eu d'irrigation donc dans les champs, donc vraiment le rendement s'est effondré. Où normalement on fait du 40 tonnes, on va être plutôt aux alentours de 20-25 tonnes à l'hectare.
Pas assez en tout cas pour votre propre production de chips.
Nous ça va être juste, mais on va y arriver parce qu'on a un peu plus d'hectares, mais finalement au niveau rendement, si vous voulez, sur un hectare on faisait 40 tonnes, aujourd'hui on va en faire 25 tonnes, donc il va falloir doubler la superficie pour nous approvisionner. Mais finalement, nous, on en avait fait un peu plus qu'on vendait à d'autres personnes. Aujourd'hui, on en prendra plus pour nous.
Oui, on va le rappeler. Hein. Vous êtes aussi producteur de pommes de terre. Hein. C'est-à-dire, vous maîtrisez de A à Z.
On maîtrise de A à Z. C'est pas moi directement. C'est mon beau-père qui fait la production de pommes de terre. Et nous, on vient lui racheter et on lui donne aussi un coup de main sur la ferme.
Voici la chie française, le paquet de 150 grammes, généreux, agréable, parfait pour l'apéro. Ou sinon, on a son petit frère.
Le paquet de 45 grammes pour les petits plaisirs solitaires.
Les chips sont souvent associées à l'apéritif, au pique-nique, au trajet en train ou en bateau, mais elles ont aussi une image de produit gras et salé, pas très bon pour la santé.
Alors tout à fait, mais nous on peut le regarder, les internautes doivent connaître Yuka, donc une société qui vient un peu regarder les différents critères de la chip. Mais comme nous sommes moins salés, plus épaisses, et on a une machine qui vient vraiment essorer la chip, donc on est un peu moins gras. Il faut aller regarder sur Yuka en scannant notre code barre et on a des bons résultats au niveau de la chip. Mais ça reste quand même une chip, donc ça reste quand même gras. Voilà, donc nous, au niveau du Nutri-Score, on est sur un Nutri-Score B, ce qui est très bien pour la chips.
Et pas d'arôme artificiel, pas de colorant, pas de conservateur, une chips artisanale qui n'a rien à cacher, hein, c'est votre promesse. Les chips sont produites localement avec des pommes de terre de variété Lady Claire récoltées dans les champs de la famille. Vous êtes dans une démarche locale, on l'a compris. La France, c'est un très gros producteur de pommes de terre, elle en exporte beaucoup et dans le même temps, elle importe des chips ou des frites. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous en tant que producteur, mais aussi en tant qu'entrepreneur ?
Alors moi, je trouve ça dommage parce qu'on a quand même un très très beau territoire et on a toute la production et nous, c'est nos valeurs, c'est de produire français, de transformer chez nous et d'essayer vraiment d'être en local pour l'économie locale et nationale.
Il faut préciser quand même que les Français consomment seulement 1,1 kg de chips par an et par personne. C'est presque 3 fois moins que les Belges et 4 fois moins que les Anglais. Malgré tout, on voit fleurir de plus en plus de fabricants de chips engagés, notamment dans le localisme ou à la recherche de recettes moins salées. C'est aussi votre créneau. C'est stimulant.
Ah, c'est très stimulant de pouvoir acheter français, vendre français. Pour moi, faire vivre les gens localement et je trouve ça très important, oui.
Un dernier mot, au-delà des interrogations sur les matières premières, il y a surtout pour les PME la peur d'ouvrir le courrier, de recevoir la facture d'électricité. Ça, c'est une préoccupation aussi pour vous ?
C'est un énorme stress, c'est un gros stress. Là, c'est notre hantise aujourd'hui, finalement, où on commençait à voir notre entreprise fonctionner. Et là où l'électricité va arriver, on a très très peur et on ne sait pas comment ça va se passer.
Ouais, compte tenu notamment de la hausse des coûts de l'énergie, est-ce que vous allez devoir augmenter vos prix ?
Malheureusement, on va devoir, je pense, effectivement augmenter nos prix. Après, on prendra une partie, mais on en remettra forcément une partie sur le consommateur final parce qu'on ne peut pas absorber ces coûts. Et aujourd'hui, on était transparent sur nos coûts. Et là, on arrive à un moment où malheureusement, on chauffe avec le gaz notre chaudron. Donc là, vous voyez, il y a des soucis au niveau du gaz aussi. L'électricité, on voit que ça s'envole aussi. Donc oui, malheureusement, on va devoir impacter le client final.
Merci Étienne Lemoine, cofondateur de la Chips française, disponible sur le site internet lachips.fr, mais aussi en grande distribution. Merci aussi Marie-Josée Cougar, spécialiste de l'agroalimentaire aux Échos.
Tiens, qu'est-ce que j'ai ce matin? Quel friton, putain, merde! J'ai une pêche d'enfer, ça va le faire, c'est la vie qui éclate. J'ai vraiment la patate.
Cette émission a été réalisée par Willy Patatorgan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.